avance d'un pas rapide et décidé sur la route qui le conduit loin de chez lui. Il regarde droit devant lui, impatient de savoir ce qui l'attend. Emboîtant le pas à ses compagnons, Timothée traverse ces champs qu'il connaît si bien. Derrière eux, en haut d'une petite colline, au fond de la vallée, la ville de Lystre s'éloigne peu à peu. Timothée sourit en pensant à sa mère et à sa grand-mère qui rayonnaient de fierté et dissimulaient leurs larmes en le regardant partir. Doit-il se retourner et leur faire un signe de la main juste une dernière fois? De temps à autre, l'apôtre Paul se tourne vers Timothée et lui adresse un sourire encourageant. Il sait que Timothée doit encore surmonter sa timidité, mais il est heureux de voir son enthousiasme. Timothée est assez jeune, il a sans doute près de 20 ans ou guère plus. Il a énormément de respect et d'affection pour Paul. Il suit à présent cet homme dynamique et fidèle dans un voyage qui l'amènera à des centaines de kilomètres de chez lui. Ils se déplaceront à pied et par bateau et rencontreront en chemin d'innombrables dangers. Timothée n'est pas certain de revenir un jour chez lui. Pourquoi ce jeune homme a-t-il fait ce choix de vie ? Qu'est-ce qui peut bien valoir de tels sacrifices ? Et quelle influence la foi de Timothée peut-elle avoir sur la nôtre ? Timothée, sacré Timothée ! Vous l'avez sûrement compris, on va parler de Timothée ce matin. Ce n'est pas une surprise, mais pourquoi ? Pourquoi allons-nous parler de Timothée ce matin ? Pourquoi avoir choisi Timothée ? Eh bien, c'est très simple. Nous devons nous faire à la réalité que les Timothées ne courent pas les rues. Peut-être parce que la mode des prénoms a changé. Peut-être que c'est plus la mode d'appeler son fils Timothée. Ou peut-être c'est quelque chose de bien plus sérieux. Le titre de ce message est très simple. Où sont les Timothées ? J'aimerais que vous puissiez prier avec moi. À toi soit la gloire, Père. À toi soit toute la gloire et le règne, Jésus. Merci parce que c'est toi qui fais tout, Seigneur, et tout est pour toi. Tout est à toi, Jésus, et tout vient de toi. Et je prie aussi aujourd'hui, Seigneur, alors que je suis là, Seigneur, je prie que tu agisses à travers moi, Seigneur. Car si tu m'as placé ici, Seigneur, c'est toi qui as décidé, c'est toi qui vas faire quelque chose que moi je ne peux pas faire. Touche les cœurs, Jésus. Réveille notre faim pour toi, Jésus. Transforme nos vies, Seigneur, comme tu l'as déjà fait, comme tu le fais encore et tu le feras encore. Car tu es ce Dieu de vie et de vérité. Que ta vérité nous transforme ce matin, comme elle est déjà en train de le faire depuis le début de ce culte, Seigneur, béni. Oh, combien béni, Jésus, merci. Agis, Jésus, en ton nom je prie. Amen. Je vais lire quelques passages de Timothée, vous n'avez pas besoin de les exposer, pas besoin de les regarder, écoutez seulement, ça fait du bien aussi des fois, juste écoutez. Je vais lire premièrement 2 Timothée 1, versets 1 à 2. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et maintenant, je vais lire les versets dans toujours 2 Timothée 2, 1 à 6. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Il faut comprendre le contexte des lettres de Timothée, parce qu'elles sont tellement importantes. Et je suis heureux, j'ai demandé aussi à tous les responsables de lire les lettres de Timothée ces dernières semaines, les deux lettres, bien entendu, pas juste la première. Et moi, ces dernières deux ou trois semaines, j'ai dû les lire 10 fois. Et je pense que je devrais encore les lire 10 fois, parce qu'il y a tellement de trésors. Vous avez entendu 5 personnes, il y a tellement de trésors. Dans la Bible, il y en a dans toutes les pages. Et Jésus est révélé à chaque page. Mais nous devons comprendre que ces lettres de Paul ne sont pas simplement des mots d'encouragement. Elles ont une résonance beaucoup plus profonde. C'est le testament d'un père à son fils. ce que Paul veut partager à son fils Timothée, à son fils spirituel bien-aimé. Si la première lettre à Timothée a pour but premier de l'encourager, le fortifier, le guider dans son ministère, lui donner des instructions, la deuxième lettre de Paul n'est autre que son dernier écrit officiel. Peut-être vous ne le saviez pas, la lettre de Timothée, la deuxième lettre de Timothée, la dernière, est le dernier écrit de Paul. Et on l'a entendu la semaine dernière, le pasteur Nick a dit, les dernières paroles d'Élisée, c'était quoi ? Tire ! Combien important les dernières paroles d'un homme de foi ? Combien important la lettre que Paul va laisser à son fils bien-aimé, sa dernière lettre, son testament, voilà ce que je veux que tu entendes. Les dernières recommandations de Paul à son cher Timothée. Nous savons que Timothée a été radicalement transformé par le message de Paul, le message de l'Évangile, lors de sa première visite à Lystre, son premier voyage missionnaire. Lorsqu'il est arrivé à Lystre, il s'est déplacé, il était à Iconium, où il a failli être encore lapidé. Ensuite, il descend un peu à Lystre, et là, il va annoncer avec puissance le message, et Timothée et une foule vont être transformés par ce message. On sait que sa maman et sa grand-maman, qui étudiaient la parole, l'Ancien Testament bien sûr, qui attendaient ce Messie, à ce moment-là, le Messie est exposé. Le message de la vérité va être enfin révélé à ces gens qui ont faim de la vérité. Et Timothée va être radicalement transformé. Plus le même. Transformation radicale. Et nous savons aussi, pour ceux qui connaissent les voyages de Paul, que Paul reviendra à Lystre durant son deuxième voyage, quelques années plus tard, après sa première visite. Et à ce moment-là, il verra et il viendra et il aura entendu, mais Timothée, ce Timothée qui a entendu ton message a été tellement transformé. Aujourd'hui, son attitude rayonne dans sa ville et même plus loin. Et Paul va être là, waouh, Timothée va lui taper dans l'œil. En fait, il va être pris d'une affection pour ce jeune Timothée. Et va lui dire, viens avec moi. Et là, Timothée, comme on le sait, il ne va pas réfléchir, il ne va pas dire, attends, je dois quand même dire encore au revoir à ma maman, à ma grand-maman. Non, il part. Il part. Parce que le message qu'il avait entendu valait plus que toute autre chose. Nous devons réaliser ici que l'amour qui existait entre Paul et Timothée est extrêmement précieux et manifeste la grâce de Dieu envers nous. L'amour d'un père envers son fils, l'amour de Dieu envers son fils, l'amour de Jésus, l'amour de Dieu envers nous. C'est une sorte de, en français c'est Christology, c'est comme un type de Christ. L'amour qui est entre Paul et son fils Timothée, ce que Dieu a comme amour envers nous, ses enfants. J'avoue que lorsque je lisais ces lettres, et que je les relis encore, je suis inspiré et extrêmement touché par cette relation entre Paul et Timothée. Et j'avoue aussi que j'aimerais bien voir davantage d'exemples similaires autour de moi. Comme le disait Abraham, j'aimerais bien qu'il y ait plus de Paul, mais aussi plus de Timothée. Et je suis tellement béni de voir des Timothées qui se lèvent dans le groupe de jeunes. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de Paul autour d'eux. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a un autre désir. Dieu souhaite voir des relations comme Paul et Timothée. Dieu souhaite voir plus de Paul. Mais est-ce que moi, je suis un Paul ? On se dit, mais Paul, tu vois, c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui avait été transformé radicalement. Donc lui, je comprends qu'il ait été amené à prendre soin d'un jeune. Moi, je ne suis pas Paul. Toi non plus, nous ne le sommes pas, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dieu ne peut-il pas pour autant nous utiliser ? Est-ce qu'on sert le même Dieu que Paul servait ? Oui ! Moi, j'en suis sûr que Dieu veut faire quelque chose avec nous. Paul nous l'a même lui-même dit dans ses lettres. Écoutez les lettres de Timothée, il va le dire en 1 Timothée 1, 12 et 13 et 14. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il n'a pas dit « Jésus-Christ, mon Seigneur. » « Notre Seigneur, c'est le vôtre aussi. » Car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance. La grâce dans mon incrédulité. Et la grâce encore, on en a parlé dans cette semaine de jeûne et prière, mais la grâce, elle est au quotidien. Au quotidien, la grâce de Dieu, tout est grâce. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Donc Paul aussi nous dit, mais moi je n'étais pas digne de recevoir, d'être transformé. Mais on sait, Paul a lui-même vécu une transformation radicale. sur la route de Damas. Une rencontre nez à nez avec Jésus, paf ! Un changement tellement radical. C'est peut-être pas le cas de chacun d'entre nous, mais si on le souhaite, ce changement radical, vous inquiétez pas, Dieu va l'entendre et va nous permettre de le vivre. À la base, je ne pense pas qu'il était un homme qui cherchait à soutenir les plus jeunes. Il était tellement dans son truc à détruire l'Église, à détruire le travail de Dieu. Je ne pense pas qu'il avait des gens autour de lui à former. Il était tellement Saul de Tarse, était un bulldozer avant d'être touché par la grâce de Jésus. Son cœur a été complètement transformé. Et Jésus est venu lui montrer qu'il ne regardait pas au passé, ni à son caractère. Il voulait lui donner une nouvelle perspective, un nouveau regard qu'il n'avait pas avant. Je ne pense pas qu'il aurait vu Timothée. Paul nous rappelle que c'est Jésus qui change nos vies. Et c'est lui qui met en nous un nouveau cœur, de nouveaux désirs. On le lit dans Ézéchiel. Je mettrai en vous un nouveau cœur, un cœur tendre, un cœur de chair et mon esprit. On a encore parlé de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas nous, c'est son esprit. C'est un cœur nouveau qu'il nous donne. Et c'est aussi lui qui oublie notre passé et qui nous appelle à le suivre tel que nous sommes. Il nous dit de regarder à lui et non à nos propres forces. Si je devais regarder à moi-même, depuis que je suis ici, et oh combien le Seigneur me fait grâce, Nico, tu n'y arrives pas. Tu t'acharnes, mais c'est vers moi que tu dois regarder. On a peut-être des compétences, j'ai peut-être une facilité à parler devant les gens, mais si je m'appuie sur cette facilité, le Seigneur n'aura pas la place de venir agir. Ça demande aussi l'humilité, comme nous partageait aussi Florian avec ce verset. Réaliser qu'on ne peut rien et qu'on a tout reçu de Dieu. Que tout revient à Dieu et que tout est pour Dieu. Alors, lorsqu'on pense avec nostalgie, et vous pensez avec nostalgie, mais aux Timothées, où sont les Timothées ? Ceux qu'on voit, les Samuel, les Jérémie, ces jeunes qui ont été consacrés, où sont-ils ? Où sont ces jeunes qui se lèvent ? Peut-être vous vous posez la question des fois, et je me permets parce que je suis responsable de la jeunesse, et vous dites, « Oh, mais ils ne sont pas là les jeunes le dimanche. » Alors c'est vrai, aujourd'hui j'aurais dit, « Vous devez venir. » Certains sont là et normalement ils ne sont pas là. Mais peut-être vous dites, « Mais ils sont où les jeunes ?» Et puis vous vous plaignez, vous dites, « Oh, ils ne sont pas là les jeunes. » Mais ça s'arrête à là. Moi j'ai envie de vous dire, rendez-vous compte que Dieu veut vous utiliser. Et j'aimerais vous dire, et là j'ai envie de parler aux jeunes, aux personnes qui ont plus de 30 ans, c'est-à-dire à beaucoup d'entre vous. N'attendez pas de connaître la parole de Dieu par cœur, d'être à l'église depuis 20 ans, d'avoir une expérience spirituelle extraordinaire, d'être un enseignant, un prédicateur hors norme, pour dire « Seigneur, je suis disponible pour soutenir un jeune. Je suis disponible pour encourager un Abraham, un Maxime, une Tiziana. Moi, je viens à l'église depuis 5 ans, 6 ans, mais j'ai faim de voir des jeunes se lever, je sais qu'ils ont besoin. N'attendez pas d'être prédicateur, n'attendez pas de faire 3 ans de théologie. Le Saint-Esprit va vous enseigner. Ce n'est pas les études, c'est Jésus qui nous enseigne. C'est par son esprit qu'il nous enseigne. Et on a tous le même esprit, donc on est capable aussi d'être enseigné, mais aussi d'enseigner. Amen. Ne cherchez pas des excuses pour ne pas vous engager à soutenir un jeune dans la foi. Si vous aimez Dieu, que vous lisez la Bible, que vous méditez sa parole, que vous vivez en cherchant à plaire au Seigneur, que vous avez soif de voir des âmes sauvées, alors vous avez quelque chose à partager. Amen. Ça veut dire que ça vous rejoint, j'espère. J'espère que vous aimez lire la Bible, j'espère que vous méditez la parole, que vous venez pas que le dimanche. Comme j'expliquais aux jeunes, j'ai parlé aux jeunes ce vendredi, de devenir un Timothée. Aujourd'hui, cette différence, c'est où sont les Timothées. Mais vendredi, vous inquiétez pas, ils ont été secoués aussi. Parce que les Timothées ne deviendraient pas des Timothées sans Paul, mais les Timothées sont aussi, comme aussi a dit Abraham, des jeunes qui avaient faim de la parole, qui méditaient. Ils connaissaient l'Ancien Testament par cœur, je pense. Ils la connaissaient. Lorsqu'il a entendu le message de vérité, la vérité a enfin pris vie. Si vous ne connaissez pas la parole, comment vous allez reconnaître Jésus parmi les mensonges ? Connaissez la parole, ayez soif de l'enseigner, et ne vous inquiétez pas, Dieu va vous donner les paroles pour enseigner un jeune, ne vous inquiétez pas. C'est Dieu qui nous qualifie par son esprit en nous, ce ne sont pas nos performances ou nos faiblesses qui définissent notre aptitude à devenir un père ou une mère spirituelle. C'est-à-dire, ce n'est pas par rapport à ce que vous avez fait hier, ok, on a péché, on est tombé, ce n'est pas grave, Dieu fait grâce. Ah mais vu que, je ne suis pas venu à l'église depuis un mois, je ne pense pas que je vais pouvoir m'occuper d'un jeune. Est-ce que tu as faim de voir des jeunes se lever, être des Timothées dans cette ville de Genève ? Est-ce que vous avez faim de ça ? Si c'est vraiment ce qui brûle dans votre cœur, alors vous êtes qualifié par le Saint-Esprit. Et si ce n'est pas encore le cas, priez que ça devienne le cas. Ne restez pas dans les parvis. C'est ce qu'on a dit ce matin, ne restez pas dans le parvis. Dieu a plus pour chacun d'entre nous. Tout comme Paul a pu être transformé et utilisé par Dieu pour annoncer l'Évangile et pour soutenir de plus jeunes dans leur foi, les encourager, prier avec eux, les conduire vers la parole, les écouter, les aimer. Voilà le rôle d'un père et d'une mère spirituelle. Vous ne devez pas forcément corriger, vous pouvez être là simplement, je prends du temps, je t'écoute, qu'est-ce qui ne va pas ? Ce n'est pas sorcier. Ça demande de prendre du temps, de donner de votre temps. Ce qui est, je pense, aujourd'hui la denrée la plus rare et la plus coûteuse, le temps. On n'a pas le temps de prier. Pourquoi j'aurais le temps d'aller aider un jeune ? Mais si vous le souhaitez, si votre cœur aspire à ça, ne vous inquiétez pas, Dieu va faire et va placer du temps. Vos priorités vont changer et le temps va être tout d'un coup disponible. Tout comme Paul, je l'ai dit, a été transformé, nous pouvons aussi vivre cette transformation. Alors pourquoi ne pourrions pas, nous aussi, être des Paul pour trouver des Timothées ? Qu'est-ce qui nous empêche ? Je ne sais pas si je suis le seul, mais je suis tellement reconnaissant de ce que Dieu m'a placé à la jeunesse. Et aujourd'hui, mon cœur pour les jeunes a complètement changé. Jamais j'aurais pensé à... J'ai servi dans... depuis que j'ai 35 ans, depuis mes 33 premières années, je n'ai jamais servi au milieu des ados. J'ai travaillé avec des personnes âgées, des enfants, de toutes les autres catégories d'âge, mais pas les ados. Et quand je suis arrivé à l'église de réveil, on m'a dit, c'est pour un poste de jeunesse. La jeunesse, ils ne sont pas faciles. Et le Seigneur a déposé un amour extraordinaire dans mon cœur. Aujourd'hui, je ne veux que les jeunes, je ne veux plus les vieux. Non, je rigole. Mais je ne sais pas si je suis le seul, mais est-ce que vous réalisez que les jeunes autour de vous souffrent ? Est-ce que vous réalisez, peut-être c'est vos enfants, mais est-ce que vous réalisez qu'ils partent, ils sont dans des soirées, ils ne se rappellent plus de leur soirée, ils ont tellement bu, ils souffrent ! Notre génération souffre ! Alors que je préparais ce message, je suis tombé sur une triste statistique. Suisse. Un jeune, tous les trois jours, se suicide en Suisse. Et c'est une statistique de 2016. Un jeune, tous les trois jours. C'est-à-dire plus que deux par semaine. Et là, je parle des 15-29 ans. Regardez autour de vous, ça veut dire qu'un, tous les trois jours, va se donner la mort parce qu'il n'a plus d'espoir sur cette terre. Quand j'ai lu ça, j'étais là, Seigneur, c'est pas possible. Le suicide est la seconde cause de mortalité chez les 15-29 ans, selon le Stop Suicide en Suisse. Deuxième cause de mortalité. Je ne connais pas les statistiques, je ne vois, mais ce que je sais, c'est qu'il y a de la dépression, il y a de la solitude, il y a de l'abandon chez ces jeunes. Ils n'ont pas de but, ils sont perdus. Le seul espoir qu'ils trouvent, c'est dans leurs réseaux sociaux qui sont encore pires, parce qu'ils ne trouvent plus de rôle qui les inspire, des modèles, des pères et des mères qui sont là pour leur dire « Mais ce n'est pas là, il ne faut pas aller ici !» Il y a trop de jeunes qui avancent dans les ténèbres à la recherche d'un soutien, à la recherche de la lumière. Mais où sont ces lumières ? Qu'est-ce qui nous empêche de nous lever et de faire comme Paul ? Est-ce que nos oreilles sont fermées aux cris de ces jeunes ? Avons-nous peur de ces jeunes ? Ah, il nous fait peur avec sa casquette de côté. L'amour parfait bannit la crainte. Lorsque vous êtes rempli de l'amour de Dieu, vous pouvez aller devant le plus grand des caïds. Vous n'aurez pas peur. C'est lui qui aura peur de vous, parce que l'amour sera là et rien ne l'arrêtera. Avons-nous perdu espoir de voir Dieu rétablir notre jeunesse ? Dieu est le même aujourd'hui, hier et pour toujours. S'il a fait des miracles avant, et qu'il en fait encore aujourd'hui, quand je vois les jeunes, quand je vois justement le témoignage d'Abraham, de Maxime, Tiziana, qui n'était pas là il y a une année et demie, et aujourd'hui ils sont en train de vous partager ce que Dieu fait, c'est que Dieu est encore actif aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas juste des légendes. C'est la réalité, c'est un Dieu vivant. Il peut encore accomplir des miracles dans cette ville et dans la vie des jeunes. Tout a été accompli. Nous devons venir et saisir notre héritage. Encore une fois, merci pour la parole d'Anna. On ne doit pas rester au parvis. On doit aller au lieu très saint parce qu'il est ouvert maintenant. Le voile a été déchiré. Le lieu très saint est ouvert. L'héritage de filles et de fils est accessible. On est accessible à tout, comme le fils prodigue. Comme son frère qui ne voyait pas. Son frère était, à mon avis, encore dans les parvis, il n'a pas compris qu'il avait accès à tout. C'est son frère qui est parti et revenu et qui a dit, mais voilà, tout est accessible à toi. C'est pareil pour nous, tout est accessible. Que feriez-vous si vous étiez au bord de l'eau et qu'un de vos enfants, soudainement, vous crie, en secours, il est en train de se noyer. Je pense que tout papa et toute maman ici, habillés avec ce que vous voulez sur vous, vous serez au moment où vous entendez la voix de votre enfant, la première des choses, c'est vous courez, vous sautez. Est-ce qu'on fait la même chose pour les jeunes qui sont dans les rues? Ou est-ce qu'on est plutôt bien sur le quai, à s'attendre? Oh, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui va sauter. Est-ce que les jeunes qui marchent dans les rues de Genève sont les jeunes que vous portez dans votre cœur ou seulement vos enfants biologiques? Jésus a dit, qui est mon père? Qui est ma mère? C'est celui qui fait mes commandements. Les commandements, c'est d'annoncer la parole et c'est d'annoncer le salut qui est offert gratuitement. Notre commandement à chacun d'entre nous, à chacun et à chacune. Vous savez, on n'a plus beaucoup de temps et j'en suis vraiment convaincu, Jésus va bientôt revenir. Et on doit absolument maintenant faire tout ce que Dieu nous donne pour accomplir ses promesses. Et aussi la promesse que le prophète Joël avait reçue, une restauration, et même mieux. Après cela, Joël 3, verset 1. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Amen. C'est une prophétie. Et moi, je veux la vivre. Je veux la vivre. Des jeunes qui ont des visions, des jeunes qui prophétisent, des vieillards qui sont là aussi, utilisés. Paul a vu en Timothée un jeune qui était peut-être timide et fragile, mais qui avait soif de connaître Dieu. Il avait vu et entendu son cri, car son cœur était tendre comme celui de Jésus. Le parcours de Timothée nous inspire, c'est évident, mais il n'aurait jamais pu devenir cet homme de foi et pilier d'une des plus grandes églises à Éphèse, sans un Paul qui le soutenait, l'encourageait et le conduisait dans la vérité. Timothée serait peut-être resté à Lystre. Bien sûr, il aurait été utilisé, mais Dieu a des choses plus grandes et il a besoin des uns et des autres. C'est ça qui est génial. C'est pour ça qu'on est à l'Église, pour apprendre à s'élever les uns les autres. Amen. Autour de vous, regardez, c'est certains qui vont vous élever. Alors que j'arrive gentiment au bout, parce que l'heure avance et il y a encore un petit programme que Dieu veut faire aujourd'hui. J'aimerais vous dire à toutes et à tous, Dieu vous appelle à être des pères et des mères spirituels. À prendre soin de ceux qui sont plus jeunes. À vous attacher à méditer la parole. On ne vous demande pas d'être parfait. Personne n'est parfait, seulement Jésus. Mais il vit en nous. Donc on peut. Donc vous pouvez. Vous devez simplement demander à Dieu, conduis-moi vers les jeunes. Mets un cœur pour ces jeunes. Mets ton cœur dans ma vie. Change mes pensées, change mes désirs. Que l'exemple de Paul nous inspire et nous encourage à nous lever. Car aujourd'hui, c'est le temps de se lever. Aujourd'hui, c'est le temps pour chacun qui est ici de se lever parce que les temps sont courts. De ne pas désespérer devant la situation actuelle. Soyons pas fatalistes. Oh, mais regarde ces jeunes, ils vont en boîte. Ils devraient fermer ces boîtes. Priez. Priez parce que le ciel est ouvert. On l'a entendu la semaine dernière. Priez parce que Dieu vous entend. Priez parce que Jésus a tout accompli aujourd'hui, ses promesses et l'abondance est déjà accessible. Mais ne faiblissez pas, ne faiblissons pas. Continuons de prier pour les jeunes de Genève et l'Église, et les jeunes de l'Église, et de demander à Dieu de nous conduire vers ceux qui ont besoin de votre soutien. Parce que je peux vous garantir, il y en a. Le nombre de SMS et de WhatsApp que je fais par semaine, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de bras surtout beaucoup plus de gens qui m'aident. Restons proches de Dieu et attachés à son enseignement. Ne doutons pas de sa puissance qui agit à travers nous. Elle nous guidera par son Saint-Esprit. Elle nous montrera comment faire et quoi dire au bon moment. Il y a plusieurs parents dans cette salle. Moi-même, je ne suis pas encore, avec Mélodie, on n'est pas encore parents. On le désire, c'est sûr. Mais je n'ai jamais entendu d'études universitaires pour devenir parent. Personne d'entre vous avait fait des études pour devenir parent, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la tâche la plus importante où on devrait être formé pour au moins 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, peut-être voire 40 ans comme Moïse. On serait vieux après pour avoir des enfants. C'est marrant, on n'a pas besoin de formation pour être père et mère biologique. Alors pourquoi on aurait besoin de formation pour devenir père et mère spirituel? Si on a le Saint-Esprit qui nous enseigne, pourquoi besoin de faire des études? Étudier la Bible, c'est tout. Et laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous enseigner. Sachez une chose, Dieu qui est notre Père, il saura comment nous former pour devenir à notre tour des pères et des mères spirituelles. C'est l'exemple parfait. Et il nous confie cette tâche. Saisissons-la avec foi et confiance. Pas avec nos regards, mais avec la foi que Dieu nous qualifie par son Fils qui est mort et qui vit en nous aujourd'hui ressuscité. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, Paul, ton père spirituel, en présence de nombreux témoins, confie-les à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La chaîne se reproduit. Il y aura plus de Timothée si les Paul et les Paulettes se lèvent. Il y en aura plus. Il y aura plus de Timothée. Et s'il y a plus de Timothée, la parole va être encore plus propagée. Et des générations vont être transformées. Mais les Paul et les Paulettes doivent se lever. Le chemin avec le Seigneur n'est pas simple. Et ça, je peux témoigner. Et vous, sûrement. Mais nous savons que la grâce de Dieu nous accompagnera tout au long de notre vie. Cette grâce qui est constamment disponible. Travaillons sans faiblir, mes chers frères et sœurs. Prions sans faiblir. Et appliquons-nous à partager et enseigner à ceux et celles qui sont autour de nous. Que Jésus est mort et ressuscité et qu'il vient nous offrir le salut gratuitement. Pour rien, c'est gratuit et ça transforme des vies. Il transforme encore des vies aujourd'hui. Et pensons à ces milliers de jeunes à Genève. Peut-être l'un de ces jeunes aujourd'hui, alors que je parle, il est dans votre tête. Et peut-être qu'il est resté dans votre tête. Aujourd'hui, c'est le moment de passer à l'action, de l'appeler, de lui envoyer des lettres, de l'encourager. Vous ne verrez peut-être pas tout de suite le changement, mais persévérez. Demandez à Dieu de vous conduire dans les paroles pour encourager ces jeunes et laissez Dieu faire les miracles.